encore pendues à leur chaîne, fixées dans les murs sur un temps d'humidité. À l'origine, il convient de le dire, la demeure familiale avait servi de pavillon de chasse à Ivan le Terrible de fameuse mémoire. Les deux princes et mon vieux maître parlèrent durant un moment de choses qui m'étaient étrangères, et durant tout ce temps, je ne pouvais quitter des yeux celui qui, la nuit du 16 décembre 1916, avait assassiné Rasputin, et par là même influencé d'une toute autre façon qu'il ne pouvait l'imaginer, et cela pour très longtemps, le cours de l'histoire. Rasputin, Grigori Efimovitch Rasputin. Ce nom évoquait pour moi cette nuit du 23 janvier 1871-1864, on ne le sut jamais, où dans le ciel de Sibérie passa un énorme météore, grande traînée lumineuse, qui fut interprétée par les paysans de Prokofskoïe comme un signe annonciateur d'un événement important. Sous l'arc décrit par l'astéroïde, un enfant naquit. Il fut baptisé Grigori Efimovitch. Toutefois, les habitants de son village et ceux du reste de la Russie devraient encore attendre 3 décennies avant de comprendre vraiment l'avertissement du ciel. L'étymologie du nom Rasputin prête discussion. Ce nom peut venir du mot rasputsvo, la débauche. Il peut aussi venir de Rasputier, la croisée de chemin, ou de Rasputo, le dénoueur, l'homme capable de résoudre les situations complexes. En un certain sens, les trois définitions se complètent admirablement. C'était à peu près tout ce que je savais alors sur Rasputin. Alors, comment engager la conversation sur ce sujet épineux? C'était tout de même faire montre d'une curiosité pour le moins déplacée. C'est le prince Galitzine, descendant d'une des plus vieilles familles de Russie, et dont plusieurs parents avaient été ministres du tsar, qui ouvrit la voie aux confidences. Ainsi en est-il chez certaines personnes âgées. La jeunesse, plus que toute autre période, émerge avec une vivacité intacte, alors que les journées d'hier ou d'avant-hier ne laissent en mémoire que de vagues scories. La conversation avait lieu en russe, mais progressivement j'observais que les yeux du prince Félix gagnaient en fixité, prenaient un éclat métallique. Le corps, tout à l'heure détendu, semblait crispé comme celui d'un félin prêt à bondir. Visiblement, il se passait quelque chose que je ne comprenais pas. Soudain, la conversation, grâce à mon vieux maître, remet en français. Des rumeurs et des chants inconnus, mais aussi des lamentations et des cris, se rassemblaient aux quatre coins de la pièce. Le temps, comme des ailes d'un papillon, se referma sur lui-même d'un coup d'œil, d'un haussement de sourcils. Le prince Youssoupov abolit ses 50 années. Étrange sensation que j'aimerais vous narrer maintenant. Que savait-on de Grigori sur sa prime jeunesse, son enfance, son adolescence? Peu de choses, semble-t-il, mais suffisamment pour que ces dernières trouvent un écho immédiat dans l'inconscient slave. Naître dans le gouvernement de Tobolsk en Sibérie à la fin du XIXe siècle était déjà rejoindre la patrie des insoumis, des marginaux, des hommes n'ayant jamais connu du fait de l'immensité du pays la terrible condition du servage. Dans cet univers cerné par la présence d'une nature hostile,